Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Merci à Rémi pour cette introduction. Oui, à Dieu seul soit toute la gloire. Comme il l'a dit, ce message s'inscrit dans la série « Les uns avec les autres ». Nous avons déjà eu deux messages que j'aimerais résumer maintenant. Le 21 mars, Nirine nous invitait à faire de l'Église un lieu où on se sent en sécurité, car on peut être soi-même, on peut être authentique. Il a développé les recommandations « Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Seigneur vous a pardonné. » On voit que Christ est notre modèle. Et puis il y avait aussi « Supportez-vous les uns les autres avec amour » dans le sens de « Soutenez-vous ». Cela nous invite à reconnaître notre vulnérabilité dans l'Église. Cela va nous aider à avancer dans la transformation à l'image de Christ par la puissance du Saint-Esprit pour la gloire de Dieu. Voilà comment instaurer un climat de confiance dans le cadre de l'Église. Et puis, le 28 mars, Corinne nous disait que maintenir ce climat de confiance n'était pas chose acquise. Attention de ne pas nous détruire les uns les autres, ne vous mordez pas les uns les autres. Et Paul nous appelle à résister à ce penchant où nous voulons nous venger par nous-mêmes, où nous voulons, parce que nous nous sentons victimes, faire quelque chose pour sortir de cet état. Elle nous appelait plutôt à être des instruments de paix tout en déposant les situations injustes devant Dieu qui, lui, va exercer sa justice. Soignons nos relations dans le cadre de l'Église. Et en cas de blessure, voire même de conflit, ne restons pas dans ce climat de rivalité, de jalousie, mais confessons nos péchés les uns envers les autres. Demandons pardon aux autres. Accordons notre pardon aux autres. Et cela va rétablir ce climat de confiance. Dieu nous invite à laisser le Saint-Esprit diriger notre vie, transformer notre conduite. Rappelons-nous que nous sommes tous au bénéfice de la grâce de Dieu, de son pardon immérité. Faisons preuve alors de grâce envers les autres, par nos paroles, par nos attitudes, afin d'étendre le royaume de Dieu dans le cadre de notre Église, voire au-delà aussi. Voilà les résumés de ces messages et nous entrons maintenant dans le troisième message, édifions-nous. Le verset principal qui va nous intéresser ce matin se trouve dans 1 Thessaloniciens 5. Parlons un peu du contexte. En fait, Paul écrit à cette église de Thessalonique qu'il a fondée. Vous pouvez lire dans Actes 17 comment il est arrivé à Thessalonique et comment il a dû fuir cette ville aussi parce que des Juifs jaloux ont initié des troubles et l'ont fait fuir. Paul, dans ce chapitre 5, parle du retour de Jésus qui ne va pas surprendre les enfants de Dieu qui veillent et qui sont sobres. Il exhorte à la sobriété, à une vie équilibrée. Restons vigilants et sobres. Nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres. Voilà ce qu'il écrit dans les versets 6 à 8 de 1 Thessaloniciens 5. La sobriété concerne tous les domaines de notre vie et pas seulement en lien avec la boisson. Que nous puissions avoir vraiment une vie équilibrée qui nous permet d'aller à l'essentiel, de vivre l'essentiel. Puis Paul encourage à revêtir l'armure du chrétien. Elle n'est pas aussi détaillée que celle qu'on trouve dans Éphésiens 6. Il parle de la cuirasse de la foi et de l'amour, du casque de l'espérance du salut. Dans les versets 9 à 10, il rappelle le fondement de notre foi. Ça a été rappelé aussi dans la vidéo qu'on a montrée tout à l'heure. pour les enfants, mais pour les plus grands aussi, comme Rémi l'avait dit. L'œuvre de salut de Jésus-Christ. Voilà le fondement de notre foi. Et c'est ce que nous avons rappelé aussi la semaine dernière à l'occasion de Pâques. Sa mort et sa résurrection qui est la base vraiment de notre foi, qui nous permet d'aller de l'avant parce qu'il est ressuscité. Alléluia. Et voilà le contexte. Paul demande alors aux chrétiens de s'encourager, comme s'il leur disait « Allez, restons vigilants, veillons, le Seigneur Jésus va bientôt revenir. » C'est là que nous lisons le verset 11 de 1 Thessaloniciens 5. « C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres, édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. » S'encourager, se réconforter les uns les autres. Le verbe utilisé ici, dans le grec, c'est le verbe parakaleo, qui veut dire appeler à côté de soi. On appelle quelqu'un pour être consolé, défendu, aidé, relevé. Oui, on appelle à l'aide. Nous avons besoin d'aide, alors nous appelons. Il y a un mot de la même famille. Peut-être que ça évoque quelque chose chez vous. Le paraclet. Qui vient du mot parakletos, que l'on trouve dans les écrits de Jean. Ce mot veut dire défenseur, soutien, le consolateur, l'avocat. Il est utilisé dans le livre de Jean, les chapitres 14 à 16, quand Jésus parle de celui qu'il va envoyer, notre paraclet, notre défenseur. Il va l'envoyer pour nous assister, pour qu'il soit là pour nous défendre, pour nous encourager, nous réconforter. Et puis dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 1, il est question de Jésus, notre défenseur, notre avocat auprès du Père, qui a tout accompli, et qui permet que nous puissions avoir cette relation à nouveau retrouvée avec Dieu notre Père. Le Saint-Esprit, Jésus, sont ceux qui sont là pour nous consoler, nous réconforter. Mais de par leur œuvre en nous, nous pouvons nous aussi encourager, réconforter ceux qui sont autour de nous. Oui, de par ce que Jésus a fait, de par ce que le Saint-Esprit fait en nous aujourd'hui encore, et de par aussi cet amour qui est déversé dans nos cœurs, cet amour de Dieu qui est versé dans nos cœurs, que nous puissions à notre tour aussi être des personnes qui encouragent. Et je vous invite à lire 2 Corinthiens chapitre 1, les versets 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Ce que Dieu m'apporte, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, je suis capable, je suis en mesure de l'apporter à d'autres autour de moi. Comme je l'ai dit, le fait d'encourager découle de cet amour qui vient de Dieu, de cet amour que nous allons verser aussi et que nous allons faire couler auprès des autres, les uns pour les autres, les uns envers les autres. Dans l'Église, dans cette communauté de croyants, par moment, j'ai besoin de réconfort. J'ai besoin que quelqu'un soit à mes côtés. Parce que oui, on peut appeler quelqu'un pour être à nos côtés, pour nous aider. Le Seigneur est là, mais il utilise aussi les personnes qui sont autour de nous. Parfois, je suis la personne qui réconforte. Parce que le sens de ce mot, de ce verbe en grec, peut aussi vouloir dire que je peux appeler quelqu'un auprès de moi parce que je sens qu'il est triste, qu'il a besoin d'être réconforté, d'être consolé. Alors je veux être cette personne pour lui, pour elle, pour pouvoir l'aider à aller de l'avant, parce qu'elle a besoin. Oui, encourager, c'est aider à grandir, aider à progresser, à grandir dans la foi, dans ce que je vis avec le Seigneur. Il est important de pouvoir compter les uns sur les autres pour nous aider à progresser dans notre marche chrétienne, mais aussi pour persévérer dans les moments difficiles. Des chercheurs en pédagogie de l'Université de Columbia ont fait une expérience intéressante. Ils ont travaillé avec des groupes d'élèves à qui ils ont donné des exercices faciles. Au premier, ils ont dit « Vous êtes très fort !» tandis qu'ils ont félicité les seconds pour l'effort accompli. Quand ils ont proposé des exercices difficiles, les premiers se sont découragés, tandis que les seconds ont persévéré dans l'effort. Intéressant. Quel encouragement je donne à l'autre? Que nous puissions être des encourageurs qui non seulement voient le potentiel de la personne, peuvent les aider à grandir, mais aussi à persévérer, à avoir ce courage d'aller de l'avant malgré les difficultés. Comme je l'ai dit, l'encouragement vient d'un engagement. Je m'engage avec l'autre, à ses côtés, je suis là à ses côtés pour l'aider à aller de l'avant, pour l'aider à continuer. Parce que j'ai à cœur qu'il grandisse, parce que j'ai à cœur qu'il aille mieux, qu'il vive mieux. C'est aussi ce temps où on est à côté et on peut prier avec lui pour l'aider à persévérer dans les difficultés. Revenons à notre verset, le verset 11 de 1 Thessaloniciens 5. Dans la deuxième partie, il est écrit « Édifiez-vous mutuellement ». Dans une autre traduction, il est dit « Contribuez à la construction de l'autre ». Je dois vous dire que ça m'a interpellée. Parce que c'est vrai qu'on est dans la série « Les uns les autres », »,« Édifions-nous les uns les autres ». Et là, « Contribuez à la construction de l'autre ». Déjà, il y a ce terme qui est plus au singulier. Et puis, je me disais, mais je suis responsable de ma construction, du fait que je grandisse, c'est ma responsabilité, oui. Alors, comment contribuer à la construction de l'autre? Et là, j'ai réalisé qu'en fait, c'est dans les relations que nous avons les uns avec les autres que notre identité se construit. Lorsqu'on est enfant, nous avons des relations avec nos parents, nos frères et sœurs, et c'est comme ça que notre identité se construit. La relation que j'ai avec Dieu mon Père, avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, m'aide à construire mon identité, ma vraie identité que j'ai en Jésus-Christ. Et puis la relation que j'ai avec mes frères et sœurs en Christ m'aide à construire mon identité, qui je suis vraiment. Alors, voilà comment contribuer à la construction de l'autre, des uns des autres, mais parfois qui demandent peut-être des relations plus de vis-à-vis de un à un dans le cadre de l'Église. Le verbe « édifier » est utilisé pour parler de construction d'un bâtiment, d'un édifice. Et là, il y aura des images de la construction de l'Église. Parce que oui, nous sommes vraiment à la fin de cette construction. On voit là l'image qui a été prise cette semaine de l'extérieur de l'Église. Puis on a une image de l'intérieur aussi. Alors ça peut être dit il y a quelques jours. J'ai pris ça sur le site internet. Je ne sais pas où c'en est exactement. Mais on va être prêt pour le déménagement qui aura lieu bientôt. Et nous nous réjouissons de pouvoir investir ces locaux pour la gloire de Dieu et pour pouvoir vivre des moments extraordinaires de communion aussi les uns avec les autres. Alors édifier, c'est construire un bâtiment, le bâtiment de l'Église, mais pas seulement. C'est construire une communauté de personnes. Église en tant que communauté, notre communauté, nous les uns avec les autres, que nous puissions nous édifier, grandir ensemble. J'aimerais prendre une image de la construction. Alors, je suis pas une spécialiste dans la construction, mais je pense qu'on a tous certains éléments qu'on connaît en lien avec la construction. Lorsqu'on bâtit un bâtiment, lorsqu'on construit ce bâtiment, tout est fait dans le but d'édifier ce bâtiment. Ça m'a interpellée. Eh bien, que toutes nos activités dans le cadre de l'Église visent à son édification. À l'édification de chacun, chacune, tous ensemble, que nous puissions grandir tous ensemble. Dans une construction, tout se fait selon un plan, sous la direction d'un architecte. C'est pas toujours facile. Je suis dans les bureaux à la mission évangélique contre la lèpre à Launay, et puis les bureaux ne sont pas très bien insonorisés. À côté de moi, il y a un directeur de chantier, un architecte. J'entends parfois les téléphones, comme c'est pas bien insonorisé, surtout quand il est très énervé. Alors je peux vous dire que parfois c'est pas facile d'être architecte, de diriger un chantier. Et puis au bout du couloir, il y a une autre entreprise, ils sont plusieurs, alors ils viennent faire les téléphones dans le couloir, juste devant ma porte, parce que voilà, je suis là, dans le couloir, près de l'ascenseur. Et puis une fois j'entendais, non, ne faites pas un trou dans l'ascenseur. Oh là, non, vous pouvez faire un trou dans le mur, mais pas dans l'ascenseur. Alors je me dis, des fois ça doit pas être facile d'être architecte, d'être directeur de travaux, en vue de la construction. Mais on a besoin aussi, en tant que chrétien, en tant qu'église, on a besoin aussi d'un plan. Tout comme l'architecte s'en réfère à son plan avec les mesures qu'il a indiquées, tous les corps de métier se réfèrent à ce même plan. Notre divin architecte nous a laissé un plan, sa parole. Oui, la Bible est le plan que nous avons à suivre pour l'édification de l'Église. Et je vous invite à lire Colossiens 3, le verset 16. Que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Que la parole du Christ vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres. Il est question ici de la parole qui nous enseigne, qui nous avertit les uns les autres. L'exhortation ou l'avertissement qui se vit dans un climat de confiance, d'authenticité, peut contenir des éléments, ces avertissements, qui sont peut-être pas faciles à entendre, mais qui, s'ils sont dits dans l'amour et la vérité, peuvent nous aider à grandir, à nous édifier les uns les autres. Alfred Kuhn a écrit dans son livre « Les uns les autres » « L'exhortation qui s'adresse à la volonté est associée à l'instruction qui s'adresse à l'intelligence. Il est souvent nécessaire pour qu'une exhortation soit efficace qu'elle soit précédée d'un enseignement approprié. Exhorter ou avertir, c'est faire un pas de plus qu'instruire. » C'est presser l'autre de renoncer à son péché. C'est me placer à ses côtés. Souvenez-vous de ce verbe parakaleo. Qui est soit inviter quelqu'un parce qu'on a besoin de lui, soit on l'invite parce qu'on veut être à ses côtés. Donc c'est me placer à ses côtés, lui promettre mon soutien jusqu'à la victoire. C'est prier avec lui. Pour revenir à l'image de la construction d'un édifice, elle exige que différents ouvriers, différents corps de métier prennent part à cette construction. Quelqu'un disait, si une seule personne veut construire un bâtiment, c'est du bricolage. Il faut faire appel à plusieurs corps de métier. Chacun a sa spécialité, son métier. Et de même, l'édification de l'Église fait appel à la diversité des dons de chacun. Je vous invite à lire 1 Pierre 4, les versets 7 à 10. La fin de toute chose est on ne peut plus proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire, afin d'être disponible pour prier. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. La fin est proche, nous dit Pierre ici, alors que nous sommes à la veille d'une nouvelle étape. Nous allons dans des nouveaux locaux, nous allons vivre une nouvelle étape dans le cadre de notre Église. Mais souvenons-nous, comme il est question aussi dans 1 Thessaloniciens 5, il est question du retour de Jésus-Christ. Alors si Paul et Pierre, à leur époque, ont écrit que Jésus va revenir bientôt, c'est d'autant plus d'actualité aujourd'hui. Soyons prêts. Comment être prêt pour son retour? Eh bien, Paul nous exhorte à la sobriété, à une vie équilibrée dans 1 Thessaloniciens 5. Et ici, Pierre, dans le chapitre 4, les versets que nous venons de lire, donne des recommandations essentielles. Mener une vie équilibrée, pas se laisser distraire pour être disponible pour prier. Dans une autre version, soyez sage et sobre. On retrouve cette sobriété. Pourquoi ? Pour pouvoir être disponible pour l'essentiel. L'essentiel qui est de prier. Prier. Développer cette relation avec Dieu mon Père, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Prier aussi, c'est développer la relation avec l'autre. Parce que je veux l'encourager. Parce que je veux le réconforter. Parce que j'ai envie qu'ensemble nous puissions nous édifier. Et puis, on voit « Aimez-vous les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. » C'est en lien avec la demande de pardon et le fait qu'on accorde son pardon. Rappelez-vous du message de Corinne. Et puis, « Exercez l'hospitalité. » Cela rejoint le « Accueillez-vous les uns les autres » du message de Nirine. Nous avons tous reçu au moins un don de la part de Dieu. Nous sommes appelés à le développer, à le mettre au service des autres. Est-ce que nous avons conscience de quel est notre don? Quel est le don que j'ai reçu de la part de Dieu et que je peux mettre au service des autres dans le cadre de ma communauté, dans le cadre de mon Église? Si vous n'êtes pas au clair, moi je vous invite vraiment, approchez-vous soit d'un ancien, soit du pasteur. Si vous voulez, vous pouvez aussi me contacter. Mais c'est important de savoir quel est votre don pour pouvoir vraiment vous impliquer. Parce que c'est tous ensemble, quand on est tous impliqués comme cela, qu'on pourra faire avancer l'Église, qu'on pourra édifier notre Église et nous édifier les uns les autres. Est-ce que j'ai conscience que ce que je reçois de la part de Dieu, le réconfort, comme il était question au début de mon message, ou le don que je reçois, parce que je sais que chacun a reçu un don, est-ce que j'ai conscience que ce que je reçois de la part de Dieu, je le reçois pour être une source de bénédiction pour les autres autour de moi? Est-ce que j'ai conscience que cela participe à ce que l'Église soit aimante et non mordante, à ce qu'elle vive le pardon, qu'elle soit accueillante, que l'Église soit une communauté où chacun, chacune, se sent accueilli, se sent aimé, puisse être authentique et se sent vraiment en confiance. Pour conclure, édifions-nous les uns les autres. S'édifier l'un l'autre, c'est chercher à progresser ensemble. L'édification, elle est produite par l'amour, l'encouragement, l'enseignement de la parole de Dieu et le développement de nos dons au service des autres. Est-ce que nos paroles, nos attitudes, la mise en pratique de nos dons sont des actes d'amour qui encouragent, qui enseignent, qui avertissent? Des actes qui édifient dans la confiance et qui nous aident à lever ensemble les yeux vers Jésus qui est notre modèle. Soyons des hommes et des femmes qui, en s'approchant de la pierre vivante qu'est Jésus-Christ, ont été transformés en pierre vivante et édifions-nous pour former une communauté spirituelle dans laquelle nous nous sentons en sécurité pour grandir ensemble. Amen.